Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre paru en français sous le titre « Dire presque la même chose ». Cet ouvrage d'Umberto Eco est un essai consacré aux expériences et aux problèmes concrets de la traduction. Sémioticien, romancier, éditeur et traducteur, Eco ne propose pas un manuel prescriptif ni une théorie isolée des textes. Il examine plutôt à partir de comparaisons entre langues et de situations rencontrées dans son travail. Ce qui se joue lorsqu'une œuvre passe dans un autre système linguistique, etc. L'italien, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le latin fournissent un terrain d'observation récurrent. Le titre formule d'emblée sa thèse directrice « Traduire » ne consiste jamais à dire exactement la même chose, mais à produire un effet et un sens aussi proches que possible malgré les écarts entre les langues. Le livre met ainsi au centre les choix, les pertes, les compensations et les négociations, qui rendent une traduction lisible tout en maintenant son lien avec l'œuvre source. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le presque comme définition exigeante de la fidélité. Le mot presque ne désigne pas, chez Eco, une approximation paresseuse ou l'aveu d'un échec. Il décrit la condition normale de toute traduction. Les langues ne découpent pas uniformément l'expérience, ne disposent pas des mêmes connotations, ni des mêmes ressources sonores, grammaticales ou idiomatiques. Dès lors, l'identité parfaite entre un texte de départ et un texte d'arrivée est impossible. La fidélité doit donc être pensée comme une relation d'équivalence construite, et non comme une substitution mécanique de mots. Un traducteur est fidèle lorsqu'il identifie ce qui importe prioritairement dans un passage, une information, un registre, un rythme, une allusion culturelle, un effet comique ou une ambiguïté. Il peut alors accepter de déplacer certains éléments pour préserver une fonction plus décisive. Cette perspective écarte deux simplifications opposées. Le littéralisme peut conserver la force visible des mots tout en détruisant leur effet dans la langue d'arrivée. À l'inverse, une adaptation trop libre risque de rompre le lien avec les contraintes et les intentions du texte source. Le presque est donc un principe d'irresponsabilité. Il oblige à justifier les écarts, à mesurer ce qui est perdu et à chercher des compensations plutôt qu'à prétendre atteindre une transparence illusoire. Deuxièmement, traduire un monde plutôt qu'à aligner des mots. L'un des apports les plus accessibles du livre est de déplacer la question de la fidélité du mot à mot vers le rapport entre deux mondes. Les mots n'ont pas de sens indépendamment de leur contexte d'emploi, de leurs références et des habitudes culturelles qui permettent de les interpréter. Une expression idiomatique, par exemple, ne peut généralement pas être rendue par le calque de chacun de ces termes. Elle demande une formule qui produise dans la langue d'arriver une valeur comparable de sens et de ton. Cette idée vaut aussi pour les réalités sociales, les implicites historiques, les niveaux de langue et les références littéraires. Eco invite ainsi à considérer le texte comme un ensemble organisé, où chaque choix lexical agit avec d'autres choix. Traduire revient à reconstruire des parcours d'interprétation permettant au lecteur d'arriver de comprendre ce que le lecteur du texte source était invité à comprendre, ressentir ou inférer. Il ne s'agit pas de nier l'étrangeté de l'œuvre ni de la dissoudre dans les habitudes de la langue cible. Il s'agit de décider quelle étrangeté doit être conservée et quel obstacle empêcherait inutilement l'accès au texte. Cette attention au monde ouvert par l'œuvre explique pourquoi une solution correcte au niveau du dictionnaire peut demeurer insuffisante au niveau littéraire ou culturel. Troisièmement, la traduction comme négociation entre contraintes concurrentes. Eco présente volontiers la traduction comme une négociation. Le terme souligne qu'aucune décision ne satisfait simultanément toutes les exigences d'un texte. Le traducteur doit tenir compte du sens explicite, des sous-entendus, du style, de la cohérence de l'œuvre, des attentes du lectorat et des possibilités réelles de la langue d'arrivée. Préserver une rime peut imposer une modification lexicale. Maintenir une allusion peut nécessiter une explicitation qui alourdit le rythme. Reproduire une ambiguïté peut devenir impossible si la langue cible oblige à distinguer ce que la langue source laisse indéterminé. La négociation ne signifie pourtant pas que toutes les solutions se valent. Elle implique une hiérarchie argumentée des priorités et une conscience précise des concessions effectuées. Le traducteur agit dans des limites, mais il exerce aussi un jugement interprétatif. Il doit comprendre ce que fait le texte avant de décider comment le refaire autrement. Cette conception rend visible le travail habituellement discret de la traduction. Elle récuse l'image d'un intermédiaire neutre qui transférerait des unités déjà équivalentes. Elle évite également de transformer le traducteur en co-auteur sans obligation. Sa liberté est réelle, mais elle est orientée par une dette envers l'œuvre source et par la nécessité de produire un texte qui fonctionne dans sa nouvelle langue. Quatrièmement, le croisement des rôles d'auteur, éditeur et traducteur. La singularité de dire presque la même chose tient largement à la position multiple d'Umberto Eco. Il aborde la traduction en tant qu'auteur traduit, éditeur confronté à la fabrication et à la révision des textes, et traducteur ayant lui-même travaillé entre l'eslan Ces expériences empêchent de réduire le problème à une opposition abstraite entre original et copie. L'auteur découvre que son texte peut révéler, dans une autre langue, des ambiguïtés ou des choix dont il n'avait pas entièrement mesuré la portée. L'éditeur doit évaluer la cohérence d'une traduction, son adéquation à un public et la qualité de ses solutions. Le traducteur, quant à lui, rencontre directement les résistances de la syntaxe, des jeux de mots et des références. Cette pluralité de points de vue donne au livre une orientation concrète. Echo ne parle pas de la traduction comme d'un objet lointain, il examine les décisions qui surgissent dans la pratique. Y compris lorsque l'auteur peut dialoguer avec ses traducteurs, ce dialogue ne supprime pas les difficultés, car l'intention de l'auteur ne résout pas à elle seule les problèmes de réception dans une autre culture. Il peut toutefois éclairer les fonctions essentielles d'un passage. Le livre montre ainsi que traduire est une activité collective par ses conditions éditoriales, tout en restant une responsabilité intellectuelle portée par des choix précis. En dernier lieu, les exemples multilingues comme méthode de lecture comparative, elle ouvrage s'appuie sur de nombreux exemples empruntés aux langues que pratique Echo, notamment l'italien, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le latin. Cette diversité n'est pas une démonstration d'érudition séparée de l'argument, elle constitue sa méthode comparée des formulations, permet de voir concrètement pourquoi une correspondance apparente peut être trompeuse et comment une solution de traduction déplace inévitablement certains effets. Le lecteur n'a pas besoin de maîtriser chacune de ces langues pour suivre l'enjeu général, car les rapprochements servent à rendre perceptibles les différences de registre, de référence ou de structure. La méthode comparative conduit aussi à lire plus attentivement dans sa propre langue. Elle fait remarquer que le sens dépend de collocation, d'habitude expressive et de connaissances partagées que la lecture ordinaire laisse souvent invisibles. En montrant les alternatives possibles, Echo révèle que la traduction est aussi une analyse du texte source. Choisir entre plusieurs rendus suppose de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le sens littéral de la fonction pragmatique et l'information de l'effet esthétique. Cette pédagogie par cas donne au livre une portée qui dépasse les professionnels. Elle aide tout lecteur à comprendre pourquoi deux traductions d'une même œuvre peuvent différer sensiblement sans que l'une soit nécessairement infidèle. En conclusion, dire presque la même chose s'adresse en premier lieu aux traducteurs, aux étudiants en langue, aux éditeurs et aux lecteurs de littérature traduite qui souhaitent comprendre les décisions cachées derrière un texte d'arrivée. Il intéressera également les lecteurs d'Umberto Eco sensibles à la sémiotique, à l'interprétation et au rapport entre langue et culture. Son bénéfice pratique est de fournir une manière plus précise de discuter une traduction au lieu de demander si elle est simplement exacte. Le lecteur apprend à examiner ce qu'elle préserve, ce qu'elle modifie et les raisons possibles de ses choix. Son apport intellectuel est de faire de la traduction un laboratoire général de la compréhension. Chaque passage entre langues révèle que le sens est fait de contexte, d'usage, de référence et d'effet, non de mots isolés. Par rapport aux manuels techniques ou aux théories très systématiques de la traduction, le livre se distingue par son ancrage dans l'expérience croisée d'un écrivain, d'un éditeur et d'un praticien. Les exemples multilingues ne servent pas à imposer une recette universelle, mais à rendre visibles les conflits réels auxquels toute traduction répond. Cette position rend l'ouvrage particulièrement utile, il défend une fidélité exigeante sans l'assimiler au calque et reconnaît la créativité du traducteur sans la détacher de ses obligations envers l'œuvre. Le presque du titre résume ainsi une éthique concrète de la lecture et de la reformulation. Si vous souhaitez soutenir Umberto Eco, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.